Trois morts et 12 blessés, dont 6 dans un état gravissime. C'est le dernier bilan de la fusillade de Strasbourg. Bilan donné cette nuit par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Un homme a tiré sur des passants hier soir aux abords du célèbre marché de Noël. Il a ouvert le feu à 3 reprises avant de prendre la fuite. Bonjour Hugo Micheron.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'École normale supérieure, plus précisément doctorant à la chaire d'excellence Moyen-Orient et Méditerranée. Vous êtes un spécialiste du djihadisme, vous connaissez très bien la Syrie, vous avez assisté à de nombreux procès. Le suspect est un jeune de 29 ans, connu des services de police, apparemment radicalisé. C'est un profil qui vous étonne ?
Pas tant que ça. À vrai dire, c'est un profil qui commence à émerger, c'est-à-dire des hybrides, des individus qui ont un passé délinquant assez affirmé et en même temps un passé dans le djihadisme assez affirmé. Et en ça, il rappelle le modèle qui était Mohamed Merah, qui avait été déjà très très dur à détecter à l'époque, puisqu'il avait un engagement assez ancien dans le djihadisme toulousain et en même temps un passé délinquant très confirmé. Par ailleurs, cet individu est strasbourgeois et est en lien, semble-t-il, avec plusieurs djihadistes de Strasbourg. Il faut savoir que la filière de Strasbourg est une des filières les plus structurées en France. Donc on retrouve ce type de profil d'individu dans cette filière. Donc en ce sens, son profil n'est pas malheureusement très surprenant.
Quand vous dites djihadiste, ça ne veut pas dire forcément qu'il est allé en Syrie ou en Irak ou qu'il avait des liens connus avec des organisations terroristes établies.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas forcément réfléchir en termes d'organisation. Daesh a canalisé un certain nombre d'individus, près de 2000 Français entre 2012 et 2017, mais ces djihadistes, pour la plupart, étaient déjà là, en l'occurrence, ou alors ont convergé vers Daesh, mais sont encore là aujourd'hui. Daesh a été battu au Moyen-Orient, a connu une défaite militaire. À l'heure actuelle, les djihadistes qui ont été impliqués ne se sont pas tous déradicalisés. La plupart sont en prison, donc leurs capacités d'action sont considérablement réduites, mais un certain nombre de sympathisants continuent d'exister. Alors ils n'ont plus les mêmes capacités d'opération, ils n'ont plus les mêmes capacités opérationnelles. En revanche, on le voit à travers ce cap, il reste des individus très très liés à la mouvance. En l'occurrence, Strasbourg est une ville intéressante parce que des Strasbourgeois ont été les premiers à partir en Syrie. Ou presque, avec les Toulousains, on a...
Dans quelles années à peu près, ça ?
Dès 2012. Dès l'été 2012, on a les premiers Strasbourgeois, ce qui est très tôt par rapport à la temporalité de la crise syrienne. Un écosystème, si j'ose le terme, très diversifié, c'est-à-dire qu'il y a eu des départs en famille, parfois à 13, avec des camping-cars, du petit enfant aux grands-parents, et avec des profils qui ressemblent, avec les précautions d'usage, au profil de celui-là, c'est-à-dire des individus qui sont capables d'être assez violents. Et le meilleur exemple, ou le pire, c'est la participation d'un d'entre eux, Fouad Aghad, aux attentats du 13 novembre. Donc il y a ce milieu djihadiste strasbourgeois.
Et comment vous l'expliquez, ça ? Pourquoi à Strasbourg ?
Eh bien, par la présence historique d'acteurs djihadistes. Quand on retrace l'ensemble des dynamiques djihadistes dans l'Hexagone, on s'aperçoit qu'il y a une géographie du djihad. Et souvent, c'est par le fait qu'il y a des acteurs qui sont passés, mais il y a longtemps, en l'occurrence, le GIA, Strasbourg, ce sont des acteurs du GIA algérien, donc ce groupe djihadiste qui avait émergé dans la guerre civile algérienne dans les années 90, qui étaient déjà actifs à Strasbourg, enfin qui étaient passés dans les années 2000. Et à l'époque déjà, le marché de Noël avait fait l'objet d'une tentative d'attentat qui avait été déjouée à l'époque par ce qu'on appelait le groupe de Francfort. Donc on trouve cette géographie d'acteurs, on trouve cette présence historique de la même façon à Toulouse qu'à Nice, par exemple, qui sont des villes frontalières à chaque fois. Donc il faut aussi comprendre ça à partir de la logique même des acteurs. C'est comme ça qu'on peut expliquer en partie l'écosystème, si j'ose dire, djihadiste strasbourgeois, qui est bien évidemment petit, hein, très réduit.
Et dont vous nous le disiez, il y a eu déjà des projets d'attentats, plusieurs ou un seul, on parle souvent de celui de l'an 2000, il y en a eu d'autres ?
Alors, il y aurait eu une tentative d'attentat plus récente au moment de Daesh, autour de 2016. C'est toujours la même cible, hein, malheureusement, c'est le marché de Noël, pour ce qu'il représente évidemment pour cette ville. Quiconque est allé dans l'est de la France à cette période sait que le marché de Noël est une destination extrêmement, extrêmement prisée, extrêmement symbolique.
2 millions de touristes à chaque fois.
2 millions de touristes et puis une visibilité internationale et aussi une tradition qui est extrêmement ancienne dans cette ville qui est liée à ce marché. Donc ça, dans un contexte politique de tension, d'extrême tension comme à l'heure actuelle, c'est évidemment pas anodin. Le marché de Noël avait déjà donc été la cible en 2000, donc on voit c'est finalement la même matrice qui se répercute, mais aussi donc plus récemment à travers les djihadistes liés à Daesh.
Pour le suspect là, qui est actuellement recherché, on a appris qu'hier matin, il y avait eu une perquisition chez lui. Il n'était pas là. Alors, ce qui est difficile de savoir, j'aimerais avoir votre regard de spécialiste là-dessus. Ce passage à l'acte d'hier soir, c'est quoi? C'est justement un homme qui se sait recherché, qui est acculé, qui passe à l'acte, ou c'est le geste de quelqu'un de radicalisé qui avait une intention précise, terroriste, bien définie, bien préparée?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'a priori, c'est pas un loup solitaire, puisque, et ça, il faut vraiment l'entendre, le loup solitaire, a priori, n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, Mohamed Merah, qui était présenté comme tel, n'en était pas du tout un. Ils ont toujours des liens avec d'autres djihadistes, ils ont toujours un passé, et c'est le cas de cet individu, d'activiste. Lui, en l'occurrence, était quand même déjà impliqué, en lien avec d'autres, etc., déjà fiché pour radicalisation. Donc, c'est pas quelque chose qui nous est tombé sur le bout du nez. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça rappelle beaucoup, en ça, un petit peu les attentes du 22 mars 2016 en Belgique, quand on avait des individus qui étaient en train de comploter, de préparer un attentat et qui en fait, avec l'arrestation de l'un d'entre eux, ont précipité leurs attaques contre des cibles qui faisaient partie de leur plan B. Donc si c'est bien le cas dans ce cas-là de l'attentat de Strasbourg, ça signifierait que cet individu avait des intentions djihadistes et que peut-être que l'interpellation manquée à son domicile pour un braquage, hein, donc pour une autre affaire, a provoqué ou accéléré son passage à l'acte, mais le projet a priori était déjà là puisque cet individu semblait préparé.
Et s'il n'y a pas, si comme vous le dites, hein, ce n'est pas un loup solitaire, ça veut dire que sa traque va être difficile. Il a forcément des points de chute, notamment à Strasbourg, pour se cacher.
Peut-être en Allemagne aussi, puisque c'est l'une des spécificités de Strasbourg, voire en Belgique, où on sait qu'il y a une mouvance djihadiste qui a été active, avec des relais de part et d'autre du Rhin. Donc c'est pour ça que ça peut être une traque difficile. En même temps, les autorités ont réagi aussi très vite. Il y a un certain nombre de contrôles et
oui, le plan Vigipirate a été renforcé au niveau absolu en urgence attentat, ce qui renforce les contrôles aux frontières.
Oui, absolument. Et on le voit même dans le cadre d'organisations extrêmement structurées, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, comme le 13 novembre. Finalement, les traques aboutissent, ça peut mettre du temps, mais Salah Abdeslam a finalement été arrêté, alors qu'il bénéficie d'un niveau de complicité qui, a priori, compte tenu de l'ampleur de l'opération, était largement supérieur à celle-ci.
Merci beaucoup, Hugo Micheron, pour votre analyse, pour votre regard. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'École normale supérieure, et on l'a compris, spécialiste du djihadisme.